Le centre de référence, justement, le centre ressources mémoire. Je vais appeler Alexandra, le docteur Alexandra Guiraudy, qui va me rejoindre. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous voulez aussi peut-être, docteur, ce micro-là, ça sera plus facile. Alors, on avance et on recule. Mais je ne sais pas quelle est la flèche. Vous allez le voir ensemble. Quelques mots pour vous présenter. Vous êtes psychologue clinicienne. Vous avez une spécialité dans le vieillissement. Vous travaillez au CHU, donc au Centre Mémoire Ressources et Recherche, qui est le centre de référence, justement. C'est un centre expert qui accueille et qui permet de diagnostiquer des maladies neurodégénératives, et les maladies du vieillissement. On va essayer avec vous de s'arrêter sur le burn-out des aidants, parce que là on a vu beaucoup la maladie, vous allez pouvoir bien sûr poser des questions après, mais on souhaitait aussi s'arrêter sur les aidants, sur ce qui accompagne, et donc on va essayer de mieux comprendre ce rôle des aidants et pourquoi ils peuvent être mis surtout à mal. Peut-être déjà, docteur, comment on définit le burn-out des aidants?
Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Je remercie la Fondation de me permettre de parler de ce thème qui me tient à cœur et de tous ces aidants que je rencontre très fréquemment dans ma pratique clinique. Alors, je ne suis pas... Voilà. Alors, pour introduire, en 2021, 9,3 millions de Français déclaraient apporter une aide régulière à un proche en situation de handicap, de perte d'autonomie ou atteint de maladies chroniques. Donc on s'aperçoit que ça concerne énormément quand même de personnes dans la population et que ce qui garantit le maintien à domicile, c'est surtout la possibilité d'avoir un aidant qui peut garantir ce maintien. Alors, la difficulté, c'est surtout l'effet de la maladie qu'on rencontre sur les aidants. Et l'origine du burn-out serait avant tout contextuelle. C'est être confronté à l'injustice de la situation, au sentiment également d'être démuni, à l'importance des troubles du comportement. Le docteur Janton en a parlé tout à l'heure, et j'en parlerai un petit peu plus, car c'est ce qui fait aussi le nœud dans l'accompagnement de cette pathologie. Les conséquences physiologiques et psychologiques sont observables et peuvent aller jusqu'à la dépression, voire jusqu'aux idées suicidaires qu'on peut rencontrer aussi chez ces personnes. Alors, le burn-out, c'est le syntagme épuisement professionnel, mais on s'aperçoit que ce terme renvoie à énormément de définitions. J'ouvrirai un peu le débat sur ce terme en fin de topo. Dans le contexte de l'accompagnement, et c'est pas du tout à mon sens la même chose, parce que la situation d'aide et l'intensité des difficultés associées fait le cœur, en tout cas, de cette difficulté. La nécessité d'être présent en permanence, parce qu'avec l'évolution des troubles cognitifs, malheureusement, les personnes ont beaucoup de difficultés à rester seules. La réponse adaptée aux demandes répétitives, les tâches quotidiennes, l'impact sur la vie quotidienne, sur le bien-être, sur la santé de l'aidant, et également toute la part possible de loisirs qui est de plus en plus restreinte, avec l'évolution de la maladie. Donc c'est un fardeau qui est subjectif. Je vous présenterai tout à l'heure l'échelle de Zarit qui nous permet en pratique clinique d'évaluer l'importance de ce fardeau pour les aidants. Ce n'est pas un symptôme, ça c'est important je pense de le préciser, c'est vraiment un ensemble de manifestations diverses qui sont une réaction à un stress, et ce stress, il va être chronicisé, il va être répété, et c'est toutes ces manifestations qui vont se multiplier, qui vont faire qu'on va en arriver petit à petit à un syndrome d'épuisement. Donc les manifestations, on va les voir un petit peu plus en détail, mais elles sont émotionnelles, cognitives, physiques, comportementales, interpersonnelles et motivationnelles. Donc c'est important de garder à l'esprit que c'est un processus, et non pas un état à un moment donné, mais que ça fait vraiment quelque chose. C'est quelque chose qui s'installe au long cours, hein, et qu'on va peut-être nous, en tant que cliniciens, voir apparaître et être attentif à ça quand on accompagne les proches et les malades.
Quelles sont justement, si on peut revenir sur les manifestations des signes d'épuisement?
Oui, alors je vous ai fait un petit tableau récapitulatif des signes d'épuisement qu'on va rencontrer. Tout d'abord, alors l'un n'exclut pas l'autre, hein, bien évidemment, mais on rencontre un épuisement émotionnel. Le sentiment d'être vidé, le sentiment d'être émotionnellement épuisé, de pas arriver à surmonter des émotions, notamment ça peut être aussi la colère, un ressenti d'échec face aux efforts qui sont mis en place. Parce que, on le sait, c'est très difficile à accompagner et donc on est face à des échecs successifs, des fois des tentatives de faire de mettre des choses en place et quand ça fonctionne pas, eh bien, malgré les efforts fournis, on est quand même devant cette sensation. Une anxiété, la peur de mal faire, la sensation de perte de contrôle, parce que il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, il y a autant de patients qui ont un diagnostic posé que de présentations cliniques différentes, car ça dépend énormément de beaucoup de choses, de la personnalité, des ressources, de la réserve cognitive, de l'environnement. Donc, il n'y a pas de protocole, hein. On essaye de préconiser des choses, mais malheureusement on sait aussi que la perte de contrôle elle peut apparaître avec l'évolution de la maladie, la tension nerveuse, l'hypersensibilité, la tristesse, donc la colère, j'en ai parlé, l'irritabilité, l'anhédonie, l'absence de plaisir aussi qu'on peut parfois prendre dans cet accompagnement, et l'hypersensibilité aux émotions ou à la violence. On le sait avec l'évolution de la maladie que des troubles du comportement apparaissent, notamment l'irritabilité, l'agressivité verbale, parfois physique. Et on est parfois aussi démuni dans nos réponses quant aux manifestations qu'on rencontre de la part du malade. L'épuisement physique. Alors l'épuisement physique, il vient aussi parce que les aidants dorment moins, et ils dorment moins parce qu'ils sont en état d'hypervigilance, notamment la nuit, parce que l'inversion du rythme nyctéméral fait que dès qu'ils entendent un bruit, ils sont obligés de se lever, surveiller, et ça entraîne aussi cette fatigue physique. Ne pas être reconnu dans ses compétences, la charge de travail qui va être aussi de plus en plus importante, puisqu'ils vont être le repère du malade, donc du coup sollicités en permanence, et donc ils ont du mal à s'absenter parce que c'est pas un tiers qui peut souvent occuper cette place, en tout cas de courte durée mais pas à long terme. Les maux de tête, les manifestations somatiques, des prises de poids, des baisses de défense immunitaire et des pathologies cardiovasculaires et coronariennes. Ensuite, on a ce sentiment de chute d'un accomplissement personnel, donc une frustration par rapport à des attentes. Donc une baisse de l'estime de soi, une dépréciation du travail et de ses compétences, une situation qui est perçue comme immuable, hein, donc un vécu d'impuissance, un sentiment d'échec, on va procrastiner. Alors ça, c'est, je le rencontre chez certains aidants qui ont du mal à mettre des choses en place, parce qu'il y a un état aussi de résignation, une perte d'intérêt, une baisse d'engagement et de motivation. Ensuite, on observe de la dépersonnalisation, donc une chute du sentiment d'exister. Donc petit à petit, l'aidant peut se détacher à l'égard du travail, à l'égard de la personne malade. On a un risque de déshumanisation de la relation, un repli, un isolement, une agressivité qui va être réactionnelle, hein, une hostilité, ça peut même aller jusqu'à de la paranoïa, de l'impulsivité, une hyper-réactivité, donc, et puis des difficultés à avoir de l'empathie et voire jusqu'à sombrer dans des comportements d'addiction. Et puis, un autre signe est la professionnalisation de la relation. Donc, comme je disais tout à l'heure, on se désengage, on se retire, et du coup, l'autre apparaît vraiment plus comme un objet de soin que réellement comme un sujet, malgré toute l'affectivité qu'on peut y porter. Ça, c'est deux choses différentes.
Comment on va pouvoir évaluer ce burn-out ?
Alors, je vais y venir juste sur... Je termine sur cette slide parce que tout le monde ne va pas vivre les difficultés qui sont liées à la maladie de la même manière. Et que ce vécu, il est très lié à différentes choses, à notamment l'importance des troubles du comportement. Les malades n'expriment pas les mêmes comportements et c'est aussi très dépendant de la compréhension qu'on a des troubles cognitifs dans la maladie. Notamment, ce qui est le plus difficile, c'est l'agitation et l'agressivité. La compréhension donc de tout ce contexte-là est très important et fait partie de cette charge quotidienne, la charge mentale qui entraîne la situation d'épuisement. Voilà. Donc ça dépend aussi des aides qui sont proposées, c'est pour ça qu'il faut impérativement aller consulter, impérativement rentrer dans des structures de réseau, de répit. Gérard Despès vous en parlera, mais France Alzheimer est très très important à connaître parce qu'il y a tout un tas d'activités qui sont développées, d'aides proposées pour permettre aussi de soulager notamment par rapport aux difficultés que les patients, que les familles rencontrent. Et puis il y a le déni. Alors le déni, on le rencontre fréquemment, on peut le rencontrer en début de maladie, on peut le rencontrer même après. Ce déni, c'est une défense, c'est une manière aussi de se protéger contre quelque chose qui est extrêmement violent. Et on le respecte, on le sait en tout cas en tant que psychologue clinicien, qu'on ne peut pas le forcer, hein, qu'on avance avec la maladie, qu'on avance avec les réflexions, l'élaboration aussi autour des différentes difficultés, mais qu'il y a des moments où on peut proposer certaines choses, mais elles peuvent ne pas être entendues, elles peuvent être même refusées. On peut même nous dire, mais non, vous savez pas, vous savez pas ce que je vis, vous savez pas comment c'est à la maison. Non, c'est sûr, on n'y est pas. Mais par contre, on a quand même énormément de témoignages qui nous permettent aussi de comprendre qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai la chance aussi d'avoir travaillé, enfin la chance, je sais pas si c'est une chance, mais oui, j'estime aussi que ça m'a énormément apporté dans ma pratique de travailler dans des EHPAD, aussi des structures d'accompagnement dans des fins de maladie et qui m'ont permis aussi de rencontrer toutes ces situations. Alors, pour revenir avant l'évaluation, la fréquence, elle dépend aussi beaucoup, ce qu'on a constaté parmi les aidants, c'est de l'idéal professionnel élevé qu'on peut avoir dans la relation d'aide. Et notamment les personnes qui ont occupé une place d'aidant dans leur cercle familial, dans leur histoire familiale ou même professionnelle. J'accompagne actuellement une infirmière qui accompagne son mari, qui a la maladie d'Alzheimer. Et là, il y a beaucoup de résistance à lâcher prise, des résistances à passer le relais. Et là, c'est un risque d'arriver vers un épuisement. Et cette dame, notamment, on lui propose d'envisager un EHPAD, on lui propose d'aller visiter des établissements, pas forcément pour passer le cap maintenant, mais pour savoir que ça existe et qu'à un moment donné, quand peut-être elle n'y arrivera plus, elle pourra faire appel à ce genre de structure. Même actuellement, c'est encore difficile de penser qu'elle ne gardera pas son proche avec elle jusqu'à la fin de la maladie. Donc c'est des choses qu'on relève en tout cas, que quand on est beaucoup plus dans la relation d'aide, déjà bien avant d'accompagner des proches, on a plus cette sensibilité à aller vers l'épuisement, hein, dans l'accompagnement. Alors, pour revenir à la question de Virginie, l'appréciation du burn-out, on peut la faire en pratique courante avec l'échelle de Zarit, qui est un autre nom d'inventaire de Zarit sur le fardeau de l'aidant. C'est un outil qui permet de calculer la charge émotionnelle, physique et financière qui est ressentie par l'aidant familial. Donc, je vous la présente sur cette diapositive, je ne sais pas... Oui, ça va, l'écran est assez grand. Voilà, donc vous avez des questions comme est-ce que vous sentez que votre parent vous demande plus d'aide qu'il n'en a besoin ? D'autres questions comme est-ce que vous vous sentez tendu en présence de votre parent ? Est-ce que vous sentez que votre santé se détériore ? Est-ce que vous sentez que vous avez moins d'intimité que vous aimeriez ? Voilà, donc tout ça, ça va s'évaluer également en fonction de la fréquence. Et ils ont créé également une échelle mini Zarit qui permet d'aller dans des évaluations plus rapides quand on n'a pas le temps de faire une grille détaillée. Et puis vous avez des scores qui évaluent est-ce que c'est le fardeau est léger, est-ce que le fardeau est léger à modéré, est-ce qu'il est très intense ou est-ce qu'il est très sévère. Alors ça, ce sont des outils qu'on peut utiliser. Ça n'enlève pas bien évidemment la rencontre avec les dents. L'écouter de parler de sa souffrance, l'écouter de parler de ce qu'il vit. Et ça, à mon sens, a beaucoup plus d'importance que aussi ces échelles, pardon, qui font quand même, qui rendent compte à un instant T quand même de l'importance de l'épuisement. En tout cas, de la pénibilité. Alors, prévenir le burn-out de ses aidants, la temporalité est extrêmement différente d'un aidant à un autre. Il y a des aidants qui vont demander de l'aide dès le début. Et puis, il y a d'autres aidants qui vont venir demander de l'aide quand la charge mentale commence à augmenter, en tout cas quand l'incompréhension face à la maladie va petit à petit s'accentuer. Les facteurs de risque et les facteurs de protection, là aussi, il y a des aidants qui sont très entourés socialement, il y a des aidants qui sont très isolés, il y a nos capacités également à apporter de l'aide dans nos capacités physiques, notre résistance. Psychologiquement, vous imaginez un aidant qui est déjà déprimé et qui rencontre en tout cas cette maladie avec son proche, ben forcément il a moins de ressources que quelqu'un qui se sent psychologiquement un petit peu plus à même d'accompagner. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ce qui est important, c'est aussi de connaître les structures, les réseaux, les structures d'aide, les réseaux de soins à domicile. Ne pas rester isolé, surtout ne pas rester isolé avec la maladie. Il faut aller chercher de l'aide, et notamment, Gérard Despèce, on en parlera avec France Alzheimer, il y a énormément de choses qui se font, et on peut essayer de maintenir le plus longtemps possible avec différentes aides, et ça, c'est très peu connu des malades. On a créé avec les plans Alzheimer aussi des équipes ESA, équipes spécialisées Alzheimer. Ce sont des prescriptions d'une quinzaine de séances, mais ce sont des professionnels qui peuvent aller au domicile, qui font des évaluations aussi de l'environnement de vie, donner des conseils pour alléger un petit peu cette charge qui va être douloureuse. Donc tout ce qui est solution de répit, je vous en parlais avec toutes les structures d'accueil, les accueils de jour, les accueils temporaires, bon, les EHPAD, le baluchonnage, ce sont des personnes qui peuvent venir à domicile aussi, s'installer dans les lieux de vie sur des périodes très courtes pour aussi soulager sur des temps un peu limités. Et puis la formation, à mon sens c'est indispensable. Au sein du centre expert, on a ce qu'on appelle de l'ETP, de l'éducation thérapeutique à la maladie. Donc on a différents modules dans lesquels on va expliquer qu'est-ce qui se passe. France Alzheimer permet aussi cette formation. J'y participe, je vais y participer prochainement, donc des modules différents qui informent sur qu'est-ce que c'est la maladie, qu'est-ce que c'est qu'un trouble cognitif. Qu'est-ce que le trouble cognitif va ensuite entraîner comme comportement ? Parce qu'on est, c'est la rencontre de deux mondes qui sont différents. Comment ces deux mondes peuvent se rencontrer en essayant de trouver des réponses les plus adaptées possibles ? Qu'est-ce qu'ensuite il existe comme aide ? Aide financière, aide sociale, les structures, tout ça c'est très très important aussi à pouvoir transmettre auprès des aidants. Pour pas aussi qu'ils se sentent seuls et qu'ils aient aussi les moyens d'aller interpeller des structures d'aide.
Comment on réagit en situation de burn-out, justement ? Comment on...
Alors, je termine juste sur prévenir. Oui. Pour prévenir, on va offrir des espaces d'échange et de partage d'expériences. D'abord, on préserve aussi une dignité. J'insiste aussi là-dessus parce que c'est pas facile pour eux et ils sont souvent vus comme celui qui n'y arrive pas, qui est en difficulté. Ils peuvent rencontrer des professionnels qui ont des bonnes paroles. Je peux en faire partie, et souvent on se sent pas forcément compris et on est très affecté aussi par ça. Donc exprimer un ressenti de l'impact de la maladie sur la vie sociale, sur la vie familiale, faciliter la communication au sein de la famille, au sein du couple. Là aussi, il y a des enfants dans les familles. Les enfants comprennent pas forcément la maladie, comprennent pas forcément les manifestations, sont pas forcément en accord avec les décisions d'un de leurs parents. Donc là aussi, ça permet de faire des consultations de famille et de pouvoir accueillir, de discuter, d'expliciter et de favoriser en tout cas les échanges. Évoquer donc la dynamique du couple et la sexualité. Ça aussi, on n'en parle pas suffisamment et pourtant, il y a des retentissements. Il y a notamment, dans le cas de dans les troubles du comportement, il peut y avoir une hypersexualité, en tout cas une désinhibition qui entraîne des demandes incessantes et qui vont favoriser aussi un épuisement de l'aidant. Donc là aussi, il faut en parler. Exprimer l'impact sur les relations donc sociales, l'impact sur les amis. Est-ce qu'on le dit aux amis? Comment on le dit aux amis? Est-ce que les amis peuvent nous aider aussi des fois pour prendre des petits temps de répit? Mieux comprendre les troubles cognitivo-comportementaux, je vous en ai parlé. Repérer les situations de stress, voir un petit peu comment on peut y faire face, comment on peut dénouer ces moments de crise où ils peuvent arriver en consultation parce que ils n'arrivent plus trop à faire face. Comment réfléchir à la professionnalisation chronique de la relation. Lutter contre l'isolement, parce que ce sont des familles qui vont aussi s'isoler parce qu'ils ont l'impression que l'environnement ne les comprend pas, ou en tout cas que les réponses des amis sont parfois dans le jugement ou pas forcément adéquates. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important à mon sens, prendre en compte la colère, l'impuissance. Ça va permettre de décharger aussi au niveau émotionnel tout ce que vit l'aidant face au processus dégénératif. Reconnaître les situations de violence, hein, ça nous est arrivé de gérer au sein du service des situations de crise avec de l'agressivité physique, notamment je me souviens d'une aidante qui nous avait un petit peu appelé à l'aide parce qu'elle venait de se prendre un coup dans la face de la part de son proche. Donc voilà, comment on accueille ça, comment on reconnaît ça, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ensuite pour essayer de les soulager. Et puis, il y a le contexte évolutif, parce qu'on sait que c'est une maladie qui va évoluer, donc qui dit neurodégénératif, dit malheureusement, petit à petit, les signes changent, les manifestations changent aussi. Alors, quelle action à entreprendre face à l'épuisement? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ce sentiment de dignité, la médicalisation, certains aidants ont recours à de la médicalisation. Alors, on peut aussi stigmatiser, et quelquefois ça peut être mal perçu, sans compter qu'il y a des effets secondaires. Il y a eu en 2020 un congé de l'aidant. Donc c'est un congé, une allocation journalière pour l'aidant, qui est une allocation qu'il va percevoir pour réduire, en fait, enfin qui va lui permettre de réduire son temps de travail et d'avoir une indemnité compensatoire. Il faut savoir aussi que ça existe. Ce sont des dispositifs alors qui ont certes des contraintes, puisqu'il faut que l'autonomie soit assez basse. La grille Agir est une grille qui permet d'évaluer le niveau de dépendance, et plus le chiffre est bas, plus le niveau de dépendance est élevé. Donc vous voyez que là il faut que ce soit au niveau de la grille Agir, un GIR 1, 2 ou 3, donc ça veut dire quand même des personnes qui sont très dépendantes. La durée maximale est de 3 mois, elle peut être renouvelée mais c'est que de 3 mois et ça ne peut pas dépasser un an dans la carrière du salarié. Mais bon, ça a le mérite d'exister et c'est déjà quelque chose qui permet de souffler de temps en temps. On va aussi faire appel aux ressources proches au niveau des je pense à la famille, ça peut être aussi la famille lointaine, mais ça peut être aussi les enfants, que quelquefois le proche puisse aller d'une famille, aller dans la famille, soulager le temps d'un week-end pour que l'aidant puisse prendre un petit peu de répit et de s'octroyer des moments aussi de repos et de souffler pour prendre aussi du recul par rapport à ce qu'il vit. Alors, en conclusion, je termine sur ce mot de burn-out. Parce qu'en fait, ce mot de burn-out, c'est vraiment un épuisement qui est professionnel. Il a été défini dans un contexte professionnel, alors que le terme de fatigue, de compassion, à mon sens, est plus approprié parce que c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la relation thérapeutique entre le soignant et le soigné. Donc c'est vraiment cet état d'épuisement qui va s'instaurer avec une saturation de la charge mentale, de la charge physique, de la charge cognitive, parce qu'on sait aussi que quand on ne dort pas, on a des troubles cognitifs, on a des troubles de la mémoire, on a des troubles des fois de l'organisation, de la planification. Donc on a des aidants qui aussi des fois arrivent en consultation nous disant « mais moi, je commence à avoir des problèmes de mémoire, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal ?» Ben oui, c'est normal avec la charge importante qu'ils ont à gérer au quotidien. Donc c'est vraiment cette fatigue de compassion, elle intervient quand l'aidant perd sa capacité à prendre soin, à être empathique, à éprouver de la compassion. Et il est vraiment caractérisé par le phénomène de l'épuisement émotionnel, de la dépersonnalisation et du sentiment d'accomplir personnellement tout ce qu'il a à faire dans la journée. Avec donc les conséquences qu'on a vues qui sont importantes. Et je terminerai en disant que c'est vraiment important de la prévenir, de ne pas rester isolé, d'aller chercher de l'aide auprès des structures qui sont spécialisées, auprès du Centre Expert, auprès de France Alzheimer. Il y a plein de choses là qui se sont développées au fil des années, des approches qui sont très innovantes. On peut passer par les animaux, on peut passer par plein de choses. Et ça permet en tout cas de trouver aussi un petit peu de ressources et de souffle émotionnel aux proches aidants.
Merci beaucoup, docteur Guéraudy. Vous allez venir vous asseoir et nous, on peut l'applaudir pour la remercier.